Faut-il mettre le divan au grenier ? Décrié, concurrencé par les psychothérapies, la psychanalyse freudienne fait l'objet de critiques toujours plus nombreuses quant à sa capacité d'aider les patients à guérir. Considérée comme désuète dans de nombreux pays, la remise en cause de la psychanalyse s'accompagne aujourd'hui d'un essor des thérapies comportementales. Qui sont les déconvertis de la psychanalyse ? Quelles sont les principales critiques à son encontre ? Et quelles sont les nouvelles pratiques ? On en parle dans un instant avec mes invités. Vos questions sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, l'attaque. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une étude sur la façon dont les glaciers modèlent le paysage.
Oui, un travail remarquable sur les lois qui régissent l'érosion sous les grands glaciers alpins, avec en toile de fond toujours le réchauffement climatique. C'est dans un instant avec nos invités et vos questions sur les réseaux.
Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Faut-il oublier la psychanalyse freudienne ? C'est donc la question posée dans le dossier de la Tête au Carré dans un instant avec mes invités, le psychothérapeute Didier Pleu et la réalisatrice Sophie Robert. Bonjour,
bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Didier Pleu. De quoi souffrent les adeptes du divan exactement selon vous ?
Ils souffrent, un, d'endoctrinement, deux, de croyance, trois, de suggestion et quatre, de non-guérison, ce qui fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et vous rejetez pour autant toute la psychanalyse ou pas ?
Pratiquement tout, si ce n'est la talking cure, c'est-à-dire que le langage fait du bien, que la personne a besoin d'être dans l'empathie complète quand elle souffre, et puis bien sûr, il faut faire attention à l'histoire du sujet. Mais je refuse tous les dogmes freudiens, bien sûr.
Sophie Robert, vous avez rencontré d'anciens psychanalystes qui ont choisi de quitter Freud et Lacan. Quelle est la principale raison de leur départ ?
Parce qu'ils ont conservé leur esprit critique, parce qu'ils ont été agacés par le dogmatisme et l'inculture des psychanalystes, parce qu'ils ont été interpellés dans leur jeunesse par le fait que les grands ponts de la psychanalyse qui leur enseignaient étaient eux-mêmes de gros problèmes psychologiques. Et parce que pour trois d'entre eux, le fait d'avoir dans leur histoire personnelle des connexions avec d'autres pays, ça leur a permis de se rendre compte qu'il y avait d'autres schémas de pensée ailleurs, de pensée à la psychologie.
La Tête au Carré sur le divan ou à côté. On se retrouve donc dans un instant pour en parler avec des messages très contrastés, vous allez le voir, des auditeurs qui nous rejoignent en ce moment. Que se passe-t-il sous les grands glaciers alpins ? C'est la question à laquelle vous avez tenté de répondre Frédéric Herrmann et Olivier Bessac. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue. Frédéric Herrmann, vous êtes avec nous depuis Lausanne. Vous travaillez à l'université. Et puis Olivier Bessac, vous travaillez à l'Institut de physique des matériaux et de cosmochimie à Paris. Alors vos travaux sont aujourd'hui en couverture de la revue Science. Alors félicitations.
Merci.
Parce que vous avez percé un des grands mystères concernant les glaciers autour du mécanisme d'érosion. Frédéric Herrmann, avant de nous livrer votre découverte, comment fonctionne l'érosion justement ?
Bonjour. Donc, on a montré dans cette étude que l'érosion est proportionnelle à la vitesse de glissement du glacier et cette dépendance est au carré.
Et l'érosion, exactement, qu'est-ce que c'est ?
Donc, l'érosion, donc ici principalement, c'est dominé par le processus d'abrasion. Donc, on a des débris dans la glace qui vont abrader la roche en dessous et produire des sédiments qui ressortent du glacier.
Donc une formule au carré, hein, si je vous ai bien compris, hein, c'est ça. Hein,
vous êtes dans, oui, la bonne émission. Ça,
oui. Voilà, donc exactement, vous êtes au bon endroit pour en parler. Olivier Bessac, comment est-ce que vous faites pour aller voir ce qui se passe sous les glaciers ? Comment on procède alors ?
Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas aller sous les glaciers, donc ouais. on a procédé indirectement. Et les particules qui sont générées par cette érosion, on s'est dit d'où viennent-elles et on a essayé de voir quelle est leur quantité. Donc d'une part, on a mesuré cette quantité en mesurant le débit et la concentration de ces particules dans le ruisseau sous le glacier. Et d'autre part, on a cherché un traceur qui nous permettait de dire telle particule vient de tel endroit du glacier. Et ça, pour ça, on s'est intéressé au graphite qui est contenu dans les roches qui sont érodées par le glacier, à la structure de ce graphite qui montre des variations très importantes tout au long du profil du glacier. Et pour ça, on a utilisé une technique de spectroscopie Raman, qui nous permet de décrire cette structure à la fois dans les roches sources et aussi dans les particules. Et en comparant l'une avec l'autre, on est capable de dire telle ou telle particule vient de tel endroit du glacier.
Donc il y a une sorte de mémoire de la roche aussi qui est inscrite et que vous pouvez réutiliser.
Exactement,
pour vos calculs.
C'est-à-dire que cette structure du graphite dont je parlais, elle a été façonnée par l'histoire géologique de cette roche, notamment l'enfouissement et la température à laquelle a été soumise cette roche. Et l'idée, c'est que quand la roche va être érodée, elle va lâcher ces petites particules de graphite que nous, on va retrouver plus bas à la sortie du glacier et on va pouvoir dire, en regardant le spectre, c'est comparable avec un spectre que je retrouve là-haut dans la montagne à tel endroit.
Frédéric Herrmann, depuis longtemps, on sait que les glaciers modèlent le paysage. Est-ce que votre étude va permettre de connaître mieux les paysages alpins aujourd'hui ?
Oui et non. Enfin, on savait quand. Enfin, on a une idée de la forme des paysages, mais on n'avait pas d'idée précise sur la physique des processus. Donc, il y avait plusieurs théories. Et notre étude a permis d'avoir des contraintes sur la physique. Et donc, dans le futur, on pourra construire de meilleurs modèles pour essayer de voir, de quantifier l'évolution des paysages.
Et qu'est-ce que vous avez vu alors exactement sur la physique des glaciers ?
On voit en fait donc cette loi non linéaire. Elle correspond au développement théorique qui a été effectué dans les années 70, qui retombait sur cette loi d'abrasion dont je parlais avant.
Et donc, autour de la vitesse, qu'est-ce que vous avez compris ?
Pardon, par rapport à la vitesse ?
La vitesse des glaces.
C'est la vitesse de glissement de la glace.
Oui.
C'est ça, oui.
Excusez-moi. Allez-y.
Et donc, en fait, si on refait une théorie de physique de base, on peut retomber sur la loi qu'on a démontrée empiriquement sur le terrain.
Mmh. Olivier Bézac, est-ce que vos découvertes peuvent être liées à des mécanismes de réchauffement climatique aujourd'hui ?
Alors non, on va pas trop spéculer. Nos découvertes, elles s'intéressent vraiment à l'aspect érosion. Alors cette érosion, comme le disait Frédéric, ce taux d'érosion, il est lié à la vitesse de glissement du glacier. La vitesse de glissement du glacier, elle est contrôlée par différents paramètres. Il y a un paramètre physique, et la topographie du glacier. Alors plus c'est pentu, plus ça glisse. D'autres paramètres, comme la température, plus c'est chaud et plus le glacier fond et je retrouve de l'eau sous mon glacier, et ça va favoriser, ça va lubrifier, et ça va glisser et ça va éroder. Ou alors l'autre paramètre, ce sont les précipitations. Plus il pleut ou plus il neige, plus j'alimente mon glacier, plus je crée de la glace et plus je vais glisser. Donc on peut voir que le climat influence sur ce taux d'érosion, mais dans le sens inverse, je ne suis pas capable de dire est-ce que mon taux d'érosion va lui influer sur le climat ou pas.
Si le climat est plus chaud et qu'il pleut plus, on a plus d'érosion. La question c'est est-ce que ça peut générer des inquiétudes ?
Alors, quand le climat se réchauffe, mon glacier fond aussi, il va devenir de plus en plus petit. Donc il y a aussi cet effet-là. Donc des inquiétudes, et ça va générer le principal message qu'on veut dire, c'est si j'augmente la vitesse de mon glacier par 2, je vais augmenter le taux de sédiments que je relâche de mon glacier par 4. Par 10, je vais multiplier par 100 ce taux de sédiments. Donc ça veut dire qu'en aval, je vais générer des quantités de sédiments qui peuvent être assez importantes. Et une des questions, c'est qu'est-ce qu'il advient de ces sédiments ? Est-ce qu'ils vont rester dans les rivières ? Est-ce qu'ils vont aller se mettre dans les lacs de barrage ? Ce genre de questions. Après ça, sur des risques sociétaux, non, j'en ai pas à vous donner comme ça directement.
Vous avez étudié un glacier en Nouvelle-Zélande, c'est ça ?
Oui.
Alors, en quoi ces résultats, justement, peuvent être généralisés à nos glaciers alpins, par exemple ?
Alors, la Nouvelle-Zélande, pourquoi la Nouvelle-Zélande ? On aurait pu aller dans les Alpes, effectivement.
Ouais.
Alors, on est allé en Nouvelle-Zélande parce que c'est une zone tempérée. Hein, la latitude en degrés sud est équivalente à peu près à celle de nos glaciers alpins en Europe. L'idée, c'est que c'est une zone tempérée où il y a des précipitations qui sont énormes. Et comme je le disais, plus il y a de précipitations et plus mon glacier va être dynamique. Donc là-bas, il pleut à peu près 12 mètres par an, ce qui est colossal. Hein, c'est un des endroits dans le monde où il pleut beaucoup. C'est un glacier qui est très pentu. Et puis, il y avait aussi des conditions d'accès au glacier, à la sortie du glacier, qui faisaient que les choses étaient faisables pour poser les stations de mesure pendant plusieurs mois.
Mmh. Axel ?
Parmi ces sédiments, Frédéric Herman, on trouve du graphite, c'est du carbone piégé dans des roches. Est-ce que ce carbone peut se retrouver dans l'atmosphère d'une manière ou d'une autre, si on imagine des glaciers alpins, par exemple, dans les Alpes ?
Pour cette question-là, c'est plus la spécialité d'Olivier, mais on voit que les chaînes de montagne, en général, et l'érosion des chaînes de montagne, jouent un rôle assez important dans le cycle du carbone en général. Donc en effet, ça peut avoir un effet. Pour le quantifier de façon précise, c'est pas exactement le but de notre étude.
Olivier Bessac, un complément de réponse.
L'idée, c'est qu'on utilise ce traceur, je vous disais, du graphite. Le graphite, c'est un minéral qui contient le carbone, au même titre que le diamant. Et l'idée, donc il est sous forme solide. Et quand je vais libérer ce graphite, que je vais le remettre en circulation, je vais l'exposer à la suite. Il était piégé dans une roche, je le mets en circulation à la surface terrestre. Et potentiellement, ce graphite, soit il va rester sous forme solide et retourner dans l'océan, soit il peut être désagrégé, il peut être oxydé et retourner sous forme de CO2 atmosphérique. Donc une des questions qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'une fois que j'ai remis en circulation ce carbone solide, qu'est-ce qu'il advient de ce carbone solide ? Est-ce qu'il est repiégé ou est-ce qu'il retourne dans l'atmosphère. Mmh. S'il retourne dans l'atmosphère, il peut être influent sur les concentrations de carbone atmosphérique. Alors, sur des termes beaucoup plus longs que les problèmes de réchauffement climatique au sujet desquels on discute beaucoup en ce moment.
Ouais, Frédéric Herman, pour terminer, toutes ces nouvelles connaissances là, que vous apportez grâce à votre étude, ça va permettre de mieux comprendre la formation des paysages de montagne plus généralement ?
Oui, je pense en fait. C'est assez spectaculaire. On est assez content d'avoir obtenu ce résultat. Et en plus, il y a une étude qui a été publiée une semaine avant dans Nature. C'était une étude en Patagonie et en Antarctique, et il retombe exactement sur la même loi. Et donc, ça nous donne vraiment des contraintes robustes que pour pouvoir extrapoler sur des échelles de temps plus longues et donc comprendre comment les paysages se sont formés.
Et ce qui vous donne droit donc à la couverture de Science, c'est quand même pas mal. Ça vous a surpris ou pas d'ailleurs ?
Oui, bien sûr, ça nous a surpris. Ouais. On était assez contents.
J'imagine.
Avec une belle illustration, d'ailleurs.
Oui, très belle photo à la couve de Science. Et des journalistes qui vous appellent du monde entier, en fait, c'est ça, pour avoir des explications.
On a eu pas mal de...
Bah, l'équipe est internationale, hein, y a des gens de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, donc ça fait pas mal de bruit. Ouais.
Félicitations à tous les deux et puis aux autres équipes qui ont travaillé donc sur cette étude. Frédéric Herman et Olivier Bessac, merci d'être passés à la une de la science aujourd'hui. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la température corporelle des dinosaures identifiée par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles qui a réussi donc à estimer la température corporelle des dinosaures vieux de 80 millions d'années à partir de l'étude de leurs œufs fossilisés. Ainsi, la chaleur de leur corps était variable d'une espèce à l'autre et dépendait surtout de leur taille. On peut s'en douter, la température des plus gros dinosaures comme les sauropodes au long cou était de 38 degrés, tandis que celle des oviraptoridés, proches des oiseaux actuels, est estimée à 32 degrés. Toujours une question de température, si vous êtes né en été, vous avez plus de chances d'être en bonne santé. C'est ce qu'en tout cas ce que des chercheurs de l'université Cambridge avancent grâce à une étude statistique menée sur les données de santé de 450 000 Britanniques. Ils estiment que naître sous le soleil protégerait de certaines maladies, mais éviterait également une puberté trop précoce. L'étude montre également que les bébés nés en juin, juillet ou août sont plus lourds à la naissance et deviennent plus grands à l'âge adulte. En revanche, le mois de naissance n'aurait aucune influence sur l'indice de masse corporelle de l'adulte et donc sur notre corpulence. Et puis la vidéo du jour, c'est celle d'un cachet effervescent dans une bulle d'eau en apesanteur. Cette vidéo, publiée par la NASA, a été réalisée dans le but de tester une caméra ultra performante depuis la Station Spatiale Internationale. L'effet du cachet dans cette bulle d'eau est assez surprenant et très beau à voir. Vidéo donc à découvrir sur la page Facebook de la Tête au Carré et en lien sur notre compte Twitter. Que faut-il garder de la psychanalyse ? C'est le thème de l'émission. Dans un instant, notre dossier et vos messages sur franceinter.fr. Seems every time I'm playing, I'm winning. I know it's not only me. And when I'm running, these words keep coming, and all is as it should be. It's such a funny feeling, knowing I'm not hoping. I'm taking everything I see, and I can handle what you're dealing. Keep feeling I'm living through you for me. So.
Who do you want me to love? Tell me who you want me to love. How come I?
Kelly Lee Evans avec Hands Up.
La tête au carré sur France Inter.
Que faut-il garder de la psychanalyse freudienne? Question posée dans la tête au carré à mes invités Didier Pleu et Sophie Robert. Didier Pleu, vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive et vous êtes l'auteur du livre La révolution du divan pour une psychologie existentielle qui paraît chez Odile Jacob. Sophie Robert, vous êtes réalisatrice de documentaires, vous êtes l'auteur d'un film d'entretien sur les déconvertis de la psychanalyse qui est à voir en accès libre sur Dailymotion. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec de nombreuses questions, des témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Que faut-il garder de la psychanalyse, Didier Pleu? Ça va aller vite si j'en juge votre première réponse tout à l'heure.
Non, la seule chose qu'il faut garder, c'est le respect inconditionnel du patient, le respect de la parole du patient. Et ça, bien sûr, tout ce qui venait de la talking cure était bon. Par contre, tout le reste, non. Le déterminisme, tout se joue dans la petite enfance, les parents forcément toxiques, la mère fusionnelle, le père castrateur, bien sûr, le grand délire, cinéma un petit peu au niveau de la tragédie oedipienne. Non, l'inconscient, la force de l'inconscient, non, c'est la force du conscient qu'il faut travailler en psychothérapie. Il y a des processus inconscients, on est tous d'accord.
Oui, quand même.
Bien sûr qu'il y a des processus inconscients, mais c'est pas un ennemi, c'est pas comme vous entendez il y a 8 jours, la force obscure ou les forces du mal, une espèce de deuxième personne en nous schizophrénique.
Vous faites référence à Elisabeth Roudinesco, hein, qui était notre invitée à ce même micro mercredi dernier, donc comme quoi tout le monde a la parole ici.
C'est parfait, oui, effectivement, mais j'ai entendu des choses, effectivement. Pour moi, la psychanalyse, au mieux, c'est de la littérature. Je crois que Freud aurait pu avoir un prix Nobel de littérature. Et au pire, c'est du cinéma, puisqu'on a entendu mercredi dernier sur vos antennes, effectivement, que c'était Dark Vador ou Titanic. Non, je crois qu'il faut maintenant être sérieux. On parle de patient. Je ne parle pas de l'aventure particulière de quelqu'un qui va être sur le divan pour faire de l'introspection et qui, dans le silence du thérapeute, va peut-être trouver des choses sur lui-même.
Bon, ça, vous êtes d'accord là-dessus. Ça fait son job.
C'est une aventure particulière. Moi, je parle des patients. Je suis depuis 35 ans psychothérapeute et ce que je vois, c'est que les 4/5 de mes patients qui viennent d'une analyse ne vont pas mieux.
Vous dites que le problème, c'est la guérison, au fond, avec la psychanalyse. C'est qu'on ne guérit pas avec une analyse?
Mais non. Non. Comme disait Lacan, la guérison de surcroît, nous, c'était très important, parce que quand on voit que dans les CMP, les guidances, quand on voit que dans les hôpitaux, par exemple, j'ai eu des patientes anorexiques, on travaille toujours sur la fusion à la maman, sur le refus de la sexualité, on travaille toujours sur les grands secrets de famille. Pareil pour l'autisme, Sophie vous en parlera, on travaille toujours sur la mère froide. Pour les addictions, on travaille toujours sur les carences maternelles, c'est-à-dire qu'on a besoin de se remplir les addictions. Enfin, toujours les mêmes théories depuis 120 ans, mais qui sont absolument inefficaces. On parle des pathologies lourdes. Et en éducation, j'ai souvent travaillé là-dessus. C'est scandaleux de tout le temps dire que les parents sont toxiques, qu'il ne faut pas d'éducation, qu'il faut que ce soit l'autonomie avant tout de l'enfant, et ça donne la maison des ados avec, ils reviennent de cette maison en me voyant en disant, mais monsieur Pleu, on m'a dit que c'était normal parce que c'était une crise d'ado, donc c'est normal de crier sur ses parents, de s'offusquer, d'être en conflit, d'être mal et de fumer du cannabis. Il faut arrêter avec tous ces dogmes qui font du mal, mais dans notre pays c'est hégémonique parce que c'est...
Pourquoi d'ailleurs, oui, est-ce que c'est singulier à la France, ça, ou pas? Parce qu'on voit que dans un certain nombre de pays, quand même, la psychanalyse tente à disparaître petit à petit.
Mais c'est singulier à la France et aussi en Argentine et un peu au Brésil, parce que je crois que c'est très intellectuel, c'est intelligent. Moi, quand j'ai vu les éducateurs spécialisés devenir pro-freudiens, on devenait intelligent tout d'un coup, c'est-à-dire on maniait le symbole. Donc c'est lié, vous savez, c'est un peu comme le syndrome de Blanchot, le littéraire. Plus c'est compliqué, mieux c'est dans notre culture. Et puis il faut dire aussi une chose qui est, c'est que dans tous les médias, à chaque fois que je suis interviewé, je demande aux personnes, est-ce que vous avez fait une analyse, et 9/10 me disent oui, donc
c'est formidable. Un problème pour vous?
C'est un problème, c'est comme si, je sais pas, un évêque voulait me parler de la foi ou de la chrétienté. Oui. S'il est évêque, il appartient lui-même à une religion.
Mais enfin, il vous laisse la parole, donc c'est pas si mal.
Oh, très peu. Mon François Dolto n'a pas eu beaucoup de paroles.
Sophie Robert.
Bonjour.
Alors, justement, sur la psychanalyse, qu'est-ce qu'on en garde pour vous? Parce que vous êtes encore plus radical que
Didier
Pleu.
Ah oui, tout à fait. Non, parce que ça fait très longtemps que les psychanalystes, de toute façon, devant ma caméra, je les ai interviewés longuement. Ça fait longtemps qu'ils n'ont absolument pas la prétention de guérir les gens. Ils disent, on n'est absolument pas des psychothérapeutes. Et puis, de toute façon, et surtout la psychanalyse lacanienne a développé un corpus idéologique en disant qu'il faut il faut chercher la vérité du patient. Donc, c'est pas le discours conscient du patient et les symptômes ne les intéressent absolument pas. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut aller parler de soi, creuser sa vie psychique, en fait, n'intéresse pas les psychanalystes. Même l'histoire du sujet n'intéresse pas les psychanalystes. On est dans une logique où il faut rester sur le divan à vie.
L'histoire du sujet n'intéresse pas les psychanalystes. Vous y êtes un peu fort quand même.
Non.
Il est là pour entendre l'histoire du sujet, précisément.
La psychanalyse aujourd'hui, ça sert à former des croyants, en fait, ça se transmet comme une religion fondamentaliste. Alors, si vous voulez, moi, je me suis intéressée à qu'est-ce que pensent les psychanalystes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est moteur pour eux dans leur appréhension du psychisme et de la vie de la pathologie mentale et de la souffrance? Et en fait, j'ai découvert que la psychanalyse est une pyramide inversée. Ça peut être très complexe sur le plan théorique, mais les psychanalystes se reconnaissent entre eux comme psychanalystes parce qu'ils adhèrent à 3 ou 4 idées qui sont le complexe d'Oedipe, c'est la faute à maman, et en gros, c'est l'idée que dans l'inconscient, il n'y a que du phallus, que la femme, parce qu'elle naît sans pénis et prédispose à être l'agent des psychoses, que toutes les femmes s'entreraient dans une relation incestueuse avec leur enfant, fût-ce dans leur inconscient à la suite de leur premier gré, et que finalement tout se résume à séparer la mère de l'enfant. En fait, ils vont même jusqu'à criminaliser l'amour maternel. Et on est dans une situation délirante mais c'est comme un train qui laisse à grande vitesse, qui déraille et qui n'arrête pas de dérailler. Et ce problème, c'est que c'est pas seulement des idées qui sont toxiques en elles-mêmes, parce que je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça sur les femmes aujourd'hui, hein, c'est comme pour le racisme et l'antisémitisme, on n'a pas le droit de dire ces choses-là, c'est délicieux.
Ça, c'est des choses qui vous ont été dites face à la caméra. Hein.
J'en ai des heures et des heures, je rush.
Et on peut le voir d'ailleurs sur Internet,
vous avez mis le mur.
9 minutes, en tout cas aussi d'un nouveau travail que vous êtes en train de réaliser.
Voilà, je suis en train de réaliser un nouveau film à partir de ces entretiens qui va expliquer toute la théorie sexuelle, ça s'appelle le phallus et le toute la théorie intellectuelle des psychanalystes. Et l'idée, c'est de révéler tout ça. Et ils se reconnaissent entre eux par l'adhésion à ces idées-là. Et ça se traduit dans les tribunaux. Lorsque des parents d'enfants autistes, notamment, ou des parents d'enfants différents, veulent demander de l'aide auprès de psychiatres, parce que les psychanalystes ont fait un hold-up sur la pédopsychiatrie, eh bien, on se retrouve avec des expertises judiciaires ou avec des comportements du style c'est la faute de la mère, il faut laisser l'enfant, il faut séparer la mère de l'enfant. Et vous avez aujourd'hui, je résume, des familles qui sont brisées, des couples qui sont brisés, des familles qui sont brisées, on retire la garde des parents, leurs enfants, au titre de dogme psychanalytique.
Alors, Sophie Robert, juste une question, parce que vous creusez depuis plusieurs années donc un sillon plus que critique sur la psychanalyse. Il y a un rejet en bloc vraiment de cette pratique.
Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Moi, j'expose le point de vue des psychanalystes.
Oui, d'accord. Il y a une intention quand même. Ce sont eux que vous interviewez, vous êtes d'accord avec ça quand même. Quand vous dites qu'il faut rejeter la psychanalyse en bloc.
Non, je dis ce qu'ils disent est scandaleux. Mon travail, c'est de révéler ce qu'ils disent.
Oui,
ce qui c'est ce qu'ils disent qui est scandaleux. Voilà. Mais mon travail, c'est de le révéler. Je ne le critique même pas, je leur donne la parole.
Voilà, il y a une intention quand même. Vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'ils disent quand même, sinon vous ne feriez pas ce travail-là.
Non, mais il n'est pas normal qu'ils soient cachés. Si ce discours était connu, je ne ferais pas ce travail-là.
Mais vous leur donnez la parole, donc vous adhérez d'une certaine façon à leurs propos. On le voit bien quand même.
Comment ça ? Non, je n'adhère pas à leur propos. Je pense qu'il est très important de le révéler, ce propos. Parce qu'il est masqué depuis l'époque de Freud. Depuis l'époque de Freud, il y a un double discours chez les psychanalystes. Il y a un discours pour les profanes et un discours pour les initiés. Et il n'est pas normal que les psychanalystes aient autant d'influence en pédopsychiatrie, en psychiatrie de manière globale, en psychologie, sans qu'on sache exactement de quoi ils retournent. L'État, il n'y a pas de regard extérieur sur le contenu des théories de la pratique psychanalytique. Lorsque les juges statuent sur des décisions très extrêmement importantes sur la vie des gens et des enfants, ils ont des bilan avec des trucs, mais ils ne savent pas quels sont les sous-bassements.
Très bien. En tout cas, il n'y a pas d'attaque de ma part. C'était juste une question pour savoir ce qui, dans votre parcours personnel, en tout cas, vous avez intéressé par rapport à ce travail que vous menez depuis un certain nombre d'années.
Moi, je voulais être psychanalyste depuis.
Vous êtes, pardon ?
Je voulais être psychanalyste au départ. Mais oui. Et je m'intéresse à l'inconscient, à tout un tas de choses, aux sciences humaines de manière globale. Et puis, bon, j'ai été plus intéressée en tant que job par l'audiovisuel, par le fait de faire des films. Et en 2008, je me suis dit, mais ils en sont où, les psychanalystes aujourd'hui, et je partais du principe
C'est juste cette question-là où il y a eu une grosse déception quand même pour vous aussi.
Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas été déçue de quoi que ce soit. Simplement, je suis choquée.
Donc Sophie, ce serait simplement parce que vous avez refoulé votre désir inconscient d'être psychanalyste. Donc faites attention à ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est le truc habituel. Quand on s'attaque à la psychanalyse, c'est que forcément, on a refoulé quelque part un désir inconscient d'être soi-même psychanalyste, et qu'on est un petit peu fâché avec son inconscient. Non, tout ça est très, très...
Finalement, c'est un bel exemple, non ?
Mais c'est un très bel exemple.
Pour illustrer ce que vous racontez.
Bien sûr, mais c'est pas du tout inconscient chez Sophie. Je la connais. C'est très conscient d'avoir écouté des gens qui disait des sottises. C'est un peu comme quand vous disiez, est-ce qu'on ne fait pas attention à l'histoire ? On fait attention à l'histoire du sujet, mais là où Sophie avait raison, c'est de dire, attention, la psychanalyse ne fait pas attention à l'histoire même du sujet, elle ramène toujours le sujet au mythe. Maman, le DIP, etc. C'est ça le problème, c'est que ils nous ont toujours dit vous êtes des dresseurs d'animaux, disait Madame Rodinesco, dresseurs d'animaux. Hein. On en a reçu des belles aussi, antisémites, fachos, comme d'habitude. Voilà les qualifications après le livre noir de la psychanalyse et mes écrits sur Dolto. Mais non, on fait attention à la singularité du sujet, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est comment il a construit son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du sujet? Quel scénario il a pu faire comme synthèse de vie? Quelle conclusion de vie? Est-ce que ces conclusions sont bonnes après les blessures affectives ou est-ce qu'elles sont irrationnelles? On n'est pas du tout en train de dire il faut absolument penser comme ça, il faut absolument s'adapter comme ça, ce qu'on nous reproche toujours. Non, c'est l'inverse. On va plus loin que la psychanalyse. Oui.
Alors, un courriel de Franck sur franceinter.fr nous dit ceci, la psychanalyse est une méthode, pas un dogme. Il y a d'autres méthodes, j'en conviens, pourquoi les opposer? Dans certains cas, il est même utile d'aborder les choses selon plusieurs méthodes. Jeter l'opprobre sur une méthode qui a fait ses preuves venant d'un psychologue montre que l'analyse vous apporterait peut-être quelque chose de plus.
Ben voilà, alors, c'est ce que vous disiez, effectivement, quand je parle de frustration dans tous mes livres, on me dit, mais il doit avoir un gros problème avec la frustration, celui-là. Enfin, c'est toujours une espèce d'interprétation. Non, de toute façon, je n'ai jamais eu envie d'être psychanalyste. Si j'ai été bercé un peu dans l'anti-psychanalyse, c'est parce que j'ai travaillé longtemps avec des délinquants récidivistes et que je voyais en même temps que mes études, que je voyais des délinquants qui suivaient les psychothérapies analytiques et qui récidivaient. Oui, c'est très pragmatique. Moi, ce que je vois, c'est le réel. Ça n'est pas un autre monde où on me disait un délinquant va engranger des belles choses en analyse et il ne délinquera plus. Je disais, mais il continue
pour vous,
de délinquer.
Il y a cette déconnexion du réel, vraiment, dans l'analyse.
C'est la définition de la psychanalyse. Elle est hors réalité puisqu'elle nous crée un monde en dehors de nous-mêmes, très déterminé dans la petite enfance, par l'inconscient collectif, par la télé. Si votre grand-père était pétainiste, il y a de grandes chances que vous ayez du mal à dormir en 2015, etc. Tout ça, c'est de la magie. C'est de la magie.
Vous donnez un poisson rouge dans un bocal.
Attendez, on est hors réalité. Et c'est ça que l'on travaille dans les approches dites cognitives comportementales. On travaille simplement avec le réel, l'histoire réelle du patient. Est-ce qu'il n'en a pas fait inconsciemment? Et là, bien sûr, on sait qu'il y a des processus inconscients. Est-ce qu'il n'en a pas fait des histoires absurdes, des attentes absurdes sur le monde et sur lui-même? Mais comment il va de nouveau s'accommoder au réel? C'est le réel qui nous intéresse, comme c'est la guérison réelle des patients qui nous intéressent.
Sophie Romère.
Avec la psychanalyse, en fait, il y a un phénomène de sidération qui se passe et de dépendance qui est totalement assumé par les psychanalystes. Enfin, ça fait partie de la cure. Vous devenez dépendant, addict du divan, il y a un phénomène de sidération et vous grandissez dans une néo-réalité, en fait. Vous évoluez dans une néo-réalité. Vous êtes en rupture avec la vie sociale. Ça rend mal fonctionnant dans la société. Et évidemment, vous arrivez sur le divan, vous êtes un dauphin blessé, vous finissez un poisson rouge dans un bocal.
Voilà. Joy nous dit sur Twitter, l'antidogmatisme doit être réfléchi dans les deux sens, dogme psychanalytique et dogme cognitiviste. D'ailleurs, vous êtes assez critique aussi.
Mais bien sûr, mais c'est
sur
pour
les TCC.
Ça. Non, critique dans le sens où je pense que quelquefois on va trop vite au niveau de l'histoire du patient, parce qu'on a tellement cette volonté de qu'il aille mieux, qu'on lui donne des outils, des choses pour qu'il se sente mieux. Moi, je suis pour être mieux. Et à ce niveau-là, je suis proche d'un travail sur soi. Mais il n'est pas question du tout d'être dogmatique à nouveau en disant il n'y a que nous les meilleurs. Vous savez, à la conclusion du livre noir de la psychanalyse, dans La force du conscient, un chapitre que j'avais coécrit avec Alice, j'avais demandé à collaborer avec les analystes. Ce qu'on fait tous les 4-5 ans à New York avec l'institut avec qui je travaille, puisqu'on travaille avec des psychanalystes là-bas. En France, je n'ai jamais pu. J'ai tout le temps sollicité des grands noms de la psychanalyse en France pour dire ça serait pas mal, parce que forcément, votre dogme est peut-être hors réalité, mais vous avez vu des choses chez les patients. Vous avez vu des choses qui peuvent être essentielles dans l'histoire du transfert. J'appelle pas un transfert, ça. Moi, j'appelle la relation au thérapeute. Mais il y a des choses à nous dire. Est-ce que c'est bien vrai qu'on dans le rêve, on peut trouver des tas de choses? Non, dans le rêve manifeste, oui, mais pas dans le rêve latent. Ils ont des choses à nous dire. Ils ont vu des milliers de personnes. Il faut qu'on collabore peut-être, et c'est ce que j'essaie
donc
de faire.
Donc c'est un appel hein.
Ben, une sorte d'appel pour dire, il y a peut-être une psychologie intégrative qui est possible. C'est-à-dire, non pas garder les dogmes freudiens qui sont hors réalité, mais de dire, cette façon d'écouter les patients, cette façon d'écouter leur histoire. Mais ce qu'il manque, c'est ce qu'on appelle, nous, la dispute, l'engagement du thérapeute, la directivité du thérapeute et l'accès à l'inconscient.
Et c'est la psychothérapie existentielle. On en parle avec vous dans un instant, et avec beaucoup de messages sur franceinter.fr.
Chose de possible, mais qu'en moins de toi.
Côté de toi, Barba Gallo, à l'instant sur France Inter, Didier Pleu et Sophie Robert sont mes invités. Didier Pleu avec ce livre « La révolution du divan pour une psychothérapie existentielle », c'est chez Odile Jacob. Et les messages très nombreux des auditeurs. Une auditrice Françoise nous dit ceci, « Ça fait du bien de vous entendre, ras-le-bol que les mères soient les mères de tous les maux. » Et oui, c'est utile pour comprendre le pourquoi du comment, mais non, ça ne guérit pas. À un moment, c'est même de la masturbation intellectuelle, nous dit Françoise, Didier Pleu.
Les mères forcément coupables, c'est vrai que c'est terrible, hein, les mères responsables de l'anorexie, de l'autisme, des schizophrénies, des bipolarités. Donc, faut cesser avec ça. Et c'est à ce titre-là que la psychanalyse est dangereuse. C'est-à-dire qu'elle définit une simple réponse à beaucoup de pathologies, c'est-à-dire la toxicité des parents qui, par leur désir, soyons lacaniens, par leur désir, tuent le désir de l'enfant et l'existence de l'enfant.
Ouais, pourtant, d'autres messages nous disent, comme celui de Fabrice, qu'il a suivi une analyse pendant 5 ans. Ça fut extrêmement bénéfique, douloureuse par moments, libératrice souvent. Il n'y a pas dans notre société d'équivalent en termes de liberté de parole. J'avoue ne pas comprendre toutes les critiques, voire cette haine envers la psychanalyse.
Il n'y a pas de haine du tout, il faut arrêter avec ça. Moi, je n'ai pas du tout de haine. Par contre, que cette personne dise que ça lui a fait du bien. On est tous d'accord que l'effet cathartique d'une psychothérapie, quelle qu'elle soit, est bonne. Parler de soi, parler de ses fantaisies, parler de ses désirs un peu inavoués, se faire écouter, etc., fait du bien. Donc, tout ce qui est problématique de culpabilité marche. C'est pour ça que ça marchait avec Freud au début du siècle, puisque tout était lié au refoulement sexuel. Maintenant, on le verra, il y a d'autres pathologies que le refoulement. Mais c'est vrai que ça peut faire du bien, mais c'est se sentir bien. Ça n'est pas remettre en cause ces synthèses de vie. C'est une démarche thérapeutique tout à fait différente.
Sophie Robert.
Alors les gens qui sont dans des sectes, ils sont très contents d'être dans la secte. Ils disent qu'ils vont très très bien. C'est absolument pas un critère. Ce qu'il faut, c'est connaître la personne et voir comment elle a évolué. Moi, je connais un certain nombre de personnes, j'ai un certain nombre d'amis qui sont sur le divan depuis des années. Et je veux dire, quand on peut prendre du recul par rapport à l'évolution des personnes quand on les connaît bien.
Vous n'avez pas réussi à les convaincre d'arrêter alors ?
Non, mais ça fait pas du bien du tout. Ça rend des gens parfois extrêmement mal fonctionnants. Enfin, vraiment. Et on plein de gens, on connaît plein d'exemples. Non, ils ne résolvent rien du tout, ils s'enferment dans leur bocal.
Il y a un excellent exemple au niveau de la colère. Beaucoup de gens qui ont fait du divan me disent, j'exprime ma colère, maintenant j'existe enfin, je ne pouvais pas le faire avec cette mère fusionnelle et ce père castrateur. Mais non, mais être colérique, ce n'est pas terrible non plus, parce qu'être colérique, ça coupe la relation avec les autres, et comme disait Sophie Robert, c'est vraiment une guerre avec tous les autres, et on voit qu'ils n'ont pas évolué. Non, la colère, ce n'est pas un symptôme d'aller mieux, c'est quelque chose qui dit, je fais ce que je veux quand je veux, c'est plutôt de l'intolérance aux frustrations.
Ils s'enferment.
Sophie nous dit ceci sur franceinter.fr, parce qu'il y en a marre du verbiage des psychanalystes, temple de l'analogie, des révélations sans preuve, la psychanalyse n'est pas une démarche scientifique. Bon, ça, même les psychanalystes eux-mêmes
sont plutôt d'accord. Oui, on est d'accord sur ce point.
Sur le verbiage, alors il y a un extrait justement de votre film d'entretien, Les déconvertis de la psychanalyse, avec une anecdote assez croustillante autour de Jacques Lacan.
Notamment, il y a une anecdote qui est assez importante dans mon existence, et c'est le fait qu'un ami... donc psychanalyste me raconte un jour qu'il y a eu un petit groupe de l'école belge de psychanalyse qui a passé 2 soirées sur 2 phrases par lesquelles Lacan termine son interview à l'ORTF qui a été publié sous le titre Télévision. Et Lacan termine en disant « L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprès de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. » Et donc, les collègues, ils avaient passé 2 soirées à décoder ces paroles pour le moins sibyllines. Et il y avait dans le groupe, heureusement, il y avait quelqu'un qui faisait ses contrôles chez Lacan à Paris. Et il est revenu en disant, j'ai demandé à Lacan ce que signifiait cette phrase, et il a dit, j'ai dit ça pour les assonances. Et donc, ça a été un choc dans ma vie.
Voilà, pour la beauté des assonances. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ces entretiens, justement, autour de Jacques Lacan en particulier. Lacan, Freud, même combat, d'ailleurs, Didier Pleu, pour vous, ou pas?
Oui. Ben, Lacan, c'est vraiment très proche des doctrines de Freud. Mais bien sûr, il a mis des contrepétries et des jeux de mots là-dessus. Donc, effectivement, c'est bien humoristique. Mais non, c'est les mêmes choses. C'est toujours le désir de l'individu est tué par les désirs inconscients qu'ont transmis les parents dans la petite enfance. Donc, tout se rejoint. C'est-à-dire que tout est joué dans la petite enfance. Tout est joué par l'inconscient des autres. Et il n'y a aucun libre arbitre chez le sujet, il ne peut pas s'en sortir. Et d'où à la fin, même Freud l'avait dit, avec l'instinct de mort, il a fait une grande pirouette théorique en disant, de toute façon, les patients ne veulent pas s'en sortir parce qu'ils sont attirés par la souffrance. Et Lacan pensait la même chose. On ne peut pas guérir parce que finalement, le patient lui-même n'a pas envie de guérir. Et plus c'est obscur, plus c'est sombre, c'est ce que je vous disais, c'est comme le Blanchot en littérature, le Lacan, c'est le Blanchot de la psychologie.
C'était Jacques Vendrilla, qu'on entendait, qui travaillait à l'université de Louvain en Belgique.
Docteur en psychologie, voilà, tout à fait. Et alors, je disais que Lacan est allé beaucoup plus loin que Freud. Lacan a imposé un retour à Freud en France au moment où il sort de la psychanalyse en France grâce à Jacques Lacan. Mais à l'époque, Freud, plus personne ne lisait Freud. Donc non seulement il a imposé un retour à Freud, mais il est allé beaucoup plus loin. Il a été quand même très créatif. Et notamment, il est l'auteur de cette théorie qui est centrale chez tous les psychanalystes aujourd'hui en France, y compris les freudiens. C'est la forclusion du nom du père, qui signifie que la mère, parce qu'elle n'a pas de pénis, est dans son enfant dans une relation d'incestueuse avec son substitut du phallus, et qu'elle va chercher, à cause de l'envie du pénis, à chercher à le détruire. Et donc c'est aussi... Je sais, c'est délirant. Je ne demande à personne de me croire sur parole. Je vous assure, j'ai interviewé 52 psychanalystes pendant 4 ans. J'ai 60 heures de rush. Je prépare un long métrage pour le montrer. Et vous en avez déjà un aperçu dans le mur et dans mes travaux. Mais franchement, c'est édifiant.
Ouais. Vous vous heurtez toujours à la difficulté de parler de ce sujet en France, c'est-à-dire de faire des documentaires qui sont refusés par la télévision française.
Il y a une trouille. Il y a une trouille. D'abord,
une trouille de quoi, de qui?
Le fait que mon premier film, Le Mur, a été censuré pendant 2 ans.
Donc ça sur l'autisme, ce film que j'ai fait sur l'autisme.
Sur la psychanalyse dans l'autisme. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le divan. Il y a un truc, c'est que la psychanalyse, ça s'adresse à l'intelligentsia, aux bourgeois, aux gens dans les médias. Mm-hmm. Il y a une espèce de culture où, quand vous arrivez à un certain niveau de vie, un certain standing, dans la culture, dans les médias, il faut absolument faire le divan. Sinon, vous avez un problème. Et du coup, même ceux qui ne sont pas sur le divan et qui sont d'accord avec moi et intéressés par le sujet, ils ont la trouille des autres. Donc, ça exerce une vraie censure.
Le pouvoir est analytique, de toute façon. Souvenez-vous, l'enquête du CNRS prouvant qu'il y avait d'autres thérapies qui étaient valide scientifiquement, sauf la psychanalyse. Ce rapport a été jeté à la poubelle par le ministre de l'époque, d'Ouste Blasi, sur commande du lobby, qui est le lobby, c'était Philippe Soler, Bernard Lévy, Roudinesco, etc.
Mais l'étude est sortie quand même.
Elle est sortie, elle a été censurée du ministère.
Il fallait la trouver.
Mais sur l'internet, en cherchant.
On est en face d'un phénomène sectaire, ça va beaucoup plus qu'un lobby. On est vrai. Et parce que le problème, c'est pas l'existence de la psychanalyse et tellement leur pensée, c'est leur omnipotence. C'est le fait qu'ils sont ils se sentent comme des croisés. Ce sont des croisés qui ne tolèrent pas qu'on puisse non seulement remettre en question, ne pas être d'accord avec eux, mais qu'ils ne tolèrent pas que des gens qui ont une autre façon de voir les choses puissent s'exprimer. Voilà.
Un courriel de Gérard, c'est une tautologie que de dire que la psychanalyse de Freud est dépassée depuis 120 ans. Je pense que si vos invités s'intéressaient aux publications, aux travaux plus récents, ils auraient sans doute une vision plus juste de notre discours. La psychanalyse est victime de rumeurs colportées par ceux qui l'ont lu en diagonale. Pour seul exemple, quels sont les écrits de psychanalystes qui accusent la mère d'être à l'origine de l'autisme?
Il n'est pas très au courant.
Françoise Dolto, tout Françoise Dolto accuse la mère d'être à l'origine de l'autisme. Et les mères froides, les mères suffisamment bonnes, c'est Winnicott. Non, on lit, on n'est pas du tout inculte.
Est-ce qu'il y a une psychanalyse moderne, en tout cas, plus récente?
Je lis par exemple
cas,
Recalcati, un psychanalyste italien, moi, que j'admire beaucoup, qui a écrit Le complexe de Télémaque. Richard Jacob récemment, je trouve ça fabuleux, moi, quand il parle du père, etc. Mais le problème, c'est que c'est symbolique. Lui a bien compris que les problématiques maintenant des jeunes, c'était souvent de l'intolérance aux frustrations, un manque de limites et d'autorité, mais il remet ça dans un mythe, Télémaque, qu'attend son père Ulysse. Mais il a raison sur l'explication, mais dans les faits, on va faire comment? C'est là que ça ne va plus. Donc, intellectuellement, c'est toujours très brillant, mais quand on demande comment on fait, comment le sujet va-t-il s'accommoder au réel, accepter l'autorité, les frustrations, les contraintes, le principe de réalité, le complexe livre-là de Télémaque ne répond pas à ça. Donc on lit aussi nos croyances adverses, comme on dit. Non, on les lit. Non, franchement.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it
fall, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Pas la moindre idée de la réelle puissance et de la profondeur de l'opposition envers notre travail. Mais il y a le domaine médical au grand complet qui braille d'envoyer Freud à l'auto-da-fé. Et ce n'est rien si on compare à ce qui arrivera lorsque nos idées commenceront à s'infiltrer jusqu'au public sous leur forme la plus embrouillée. Les dénégations, la frénésie, la rage incohérente.
Oui, mais ne serait-ce pas causé par votre insistance pour une interprétation exclusivement sexuelle de vos observations cliniques ?
Je ne m'applique qu'à pointer du doigt ce que l'expérience m'indique comme étant la vérité. Et je peux vous assurer que dans 100 ans, notre travail sera encore rejeté.
Voilà, très visionnaire dans ce film Jung et Freud, dialogue dans Dangerous Method de David Cronenberg, et au cœur de la théorie freudienne, il y a l'origine sexuelle des troubles psychiques. C'est une hypothèse complètement dépassée pour vous aujourd'hui, Didier Plou, on peut en garder encore quelques bribes.
Non. Ce qui était bien dans le film de Cronenberg, c'est toujours la légende. Freud disait, il est ostracisé, personne ne veut en parler parce qu'il parle sexualité. Ce qui est faux. Jeannet demandait à l'époque de débattre du pansexualisme de Freud en disant je veux débattre avec cet homme. Freud a toujours refusé. Donc c'est une légende. Quant au pansexualisme de tout expliqué par la sexualité, c'est évident que les dames viennoises de fin du 19e siècle, il y avait quand même effectivement, je crois qu'un travail analytique qui leur permettait de parler de tout ça pouvait être fécond. Mais c'est fini. Il n'y a plus de refoulement au niveau des pulsions sexuelles. Nous sommes en 2015, ça fait longtemps que ça dure. Non, on parle maintenant plutôt de pathologie du défoulement. S'il y avait un surmoi, pour reprendre les termes freudiens, qui était trop important il y a 100 ans, je pense que maintenant, il y a de carence de surmoi, carence de conscience morale et carence de frein au niveau des pulsions. On est dans des pathologies d'intolérance aux frustrations. Et c'est ce qu'on essaie de montrer dans une psychanalyse, dans une psychothérapie qui serait plus existentielle. C'est-à-dire, si on est branché sur le principe de plaisir et carpe diem, comment on peut accepter la réalité des autres, sa propre réalité et la réalité tout court avec ses contraintes.
Sophie Robert.
Oui, la théorie sexuelle des psychanalystes, elle est basée sur l'idée que la femme n'existe pas, la porte de Lacan, qu'il n'y a pas de féminin dans l'inconscient, que la femme c'est un problème par définition. Donc c'est très paradoxal et c'est typique de la psychanalyse de faire du pansexualisme, en fait, de parler de sexualité tout le temps pour justifier le refoulement et pour surtout justifier la dénégation du féminin dans les mots, dans la pensée, dans les concepts, dans les actes, à tous les niveaux.
Josiane nous dit ce qui est terrible, c'est qu'on n'avance pas dans les facs de psycho à cause de la psychanalyse. Et puis un autre message de Claire, je suis infirmière, je travaille dans un service d'enseignement entrée en psychiatrie. Si l'approche psychanalytique m'a séduite dans un premier temps, je vois aujourd'hui les dommages qu'elle a pu créer chez certains patients. Mon point de vue actuel, si la psychanalyse aide à comprendre, à mon sens, elle n'aide pas à soigner, à faire vivre. Ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, Didier Pleu.
Oui, malheureusement, les formations des travailleurs sociaux, les formations de certains magistrats, juges des enfants, juges des affaires matrimoniales, tout le monde berce dans cette croyance que la psychanalyse est la solution et l'hypothèse unique en psychologie. C'est ça le problème.
Alors, si on veut aller voir un psychothérapeute existentialiste, est-ce qu'on va le trouver, Didier Pleu, ou pas?
Alors on dirait existentiel, donc c'est une hypothèse, c'est-à-dire que je pratique les approches cognitives comportementales depuis 35 ans, et ce que j'ai vu, c'est qu'en me penchant plus sur l'histoire du patient et comment il a construit tout cela, j'arrivais à de meilleurs résultats. Donc non, on va pas trouver beaucoup de psychothérapeutes de cette obédience-là, si ce n'est ceux que j'ai formés à Caen.
Alors c'est quoi votre proposition, au fond ?
La proposition, c'est d'accéder effectivement au processus inconscient et peut-être aux blessures affectives. Mais attention, tout le monde n'a pas besoin de faire ce travail. Quand dans une maison, il y a des fissures, les fissures peuvent être venues simplement par des intempéries extérieures. Mais quelquefois, les fissures viennent de fondations un peu plus fragiles. Et dans ce cas-là, il faut retrouver, déconstruire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que parce que... Et là, on va retrouver effectivement des choses que peuvent trouver les analystes. Maman m'a carencé, n'était pas là, était absente, était narcissique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la personne a reconstruit. Mm-hmm. S'il a reconstruit quelque chose du style « donc désormais, toutes les femmes doivent m'aimer » ou « désormais, je dois être tout le temps gentil pour obtenir l'amour », il va construire inconsciemment des scénarios, des schémas de vie qui vont peut-être être irrationnels et hors réalité. C'est ça la démarche existentielle. C'est-à-dire, je veux que le sujet reprenne le gouvernail de son histoire et voit ce qu'il a créé, dispute ce qui peut lui paraître absurde dans le réel, et surtout qu'il travaille sur son émotion.
Alors actuelle. C'est ça, les émotions, c'est central, vraiment.
C'est central. Au lieu de travailler par association libre, parce que là, le patient dit n'importe quoi, ou par le rêve, on travaille sur un fait actuel qui donne une émotion exaspérée, et ce qui fait que quand l'émotion est exacerbée, le patient va retrouver par association des blessures et toute sa reconstruction. Nous, c'est notre accès au processus inconscient. Ce n'est pas la symbolique, c'est l'émotion. Et ce que l'on veut, c'est que le thérapeute soit très actif, il accompagne, il dispute, il propose, parce qu'il est lui-même la réalité.
Mais votre ambition, c'est quoi ? C'est de promouvoir vraiment cette psychothérapie ?
C'est de travailler de plus
et
en plus.
Et de faire que des spécialistes puissent la proposer aussi
bien
à
sûr,
des patients ?
Mais c'est de travailler avec nos collègues cognitivistes qui travaillent déjà comme cela, mais peut-être en la théorisant un peu plus, parce que, puisqu'on nous dit toujours que nous sommes des dresseurs d'animaux, j'essaie de montrer par ce travail qu'on travaille avec la singularité
des patients. Vous
n'avez pas aimé ça ? Non, parce qu'on nous met toujours avec Watson et Pavlov et Skinner, il y a quand même autre chose en 2015, des gens qui cherchent des choses, Jacques Vandrinaire, Cottreau, etc.
Mais alors, on le trouve où, ce psy ?
Ce psy, on le trouve chez les approches cognitives comportementales pour ceux qui tiennent plus compte de l'histoire du patient. C'est déjà fait.
Bon, alors, il y a Véronique qui nous dit ceci. Travaillant depuis 37 ans, et je vous passe la parole, Sophie Robert, en tant que psychologue clinicienne et thérapeute familiale dans un hôpital psychiatrique, je peux dire que les critiques de vos deux invités ne sont pas adaptées au monde actuel de la psychiatrie. Aujourd'hui, c'est l'hégémonie des thérapies cognitives et des thérapies brèves et non de la psychanalyste. Ces dernières sont même imposées par le ministère de la Santé par le biais de directives sur le soin aux patients.
Non, c'est tout à fait faux. Ils ne sont pas imposés. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une espèce d'approche éclectique où j'ai vu ça dans les CHU, dans les centres hospitaliers. On dit, ben voyez, allez voir le comportementaliste pour faire 5 tours dans les ascenseurs, il sera moins claustrophobe. Allez voir l'autre pour faire la relaxation. Allez voir le 5e pour faire du mindfulness. Comme ça, il sera zen. Mais par contre, le psychanalyste se réserve la partie sympathique de la connaissance de soi. Non. Il y a toujours un psychanalyste qui a la baguette et qui est chef d'orchestre. Non, c'est pas du tout éclectique comme on le souhaiterait. C'est encore hégémonique dans l'autre sens.
Sophie Robert.
Pour les gens qui chercheraient un psychiatre ou un psychologue TCC, en fait, il faut regarder sur Internet. Vous avez l'IFORTEC et l'AFTCC. Ce sont deux grandes associations de réunions de psychologues et de psychiatres. Et vous avez l'annuaire des membres, IFORTEC et AFTCC.
On va écouter un extrait d'une interview de Françoise Giroud qui va nous dire tout le bien qu'elle a ressenti à son contact avec Jacques Lacan.
J'étais un peu dingue, vraiment, névrosée, je ne peux pas dire autre chose. C'est une véritable névrose.
Et vous avez fini avec cette névrose avec votre père grâce à la psychanalyse ?
Oui, absolument.
Lacan ?
Grâce à Lacan. Et je lui suis reconnaissante parce qu'il m'a vraiment arrachée à une situation où j'étais dans le 40e dessous, incapable de faire quoi que ce soit, complètement abîmée, complètement détruite, complètement.
Et vous dites précisément, je lui dois la liberté.
La liberté intérieure, oui. Absolument. Mais ça, c'est le résultat d'une analyse bien conduite. Ou alors, c'est que votre analyse a été mal conduite. Ce qu'elle doit vous apporter avant toute chose, c'est la liberté intérieure. Alors. Et ça, je l'ai vraiment acquise.
Voilà, en 1990, interrogé par Bernard Rapp, Françoise Giroud.
Oui, mais Françoise Giroud qui a tellement souffert de son chagrin d'amour avec Jean-Louis Servan-Schreiber dans la seconde partie de sa vie, on voit qu'elle n'a peut-être pas tout à fait libre grâce à la psychanalyse. Elle n'a rien réglé au niveau de l'image de l'homme.
Pourtant, elle revendique sa liberté.
Oui, hein. Mais il aurait fallu qu'elle nous décrive comment elle en est arrivée là et surtout qu'elle n'ait pas cette grande souffrance au moment de la séparation de son amant.
Est-ce que la psychanalyse est culturelle, demande Laurence ?
Complètement, c'est l'exception culturelle française, c'est ce que vous dites, c'est le syndrome Blanchot. Plus c'est obscur, plus c'est la glose, plus que c'est abstrait, plus c'est intelligent, donc il vaut mieux adhérer à cela que d'être critique.
C'est une idéologie religieuse.
Oui. avec d'autres courriels pour vous. Est-ce que la psychanalyse peut être comparée à un placebo, demande Philippe, Didier Pleu.
Bah bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. À force de croire que tout vient de papa, maman et de l'enfance, et à un moment donné, les gens se disent « je me sens mieux parce que je ne suis pas responsable de tout ça ». Et la plainte peut continuer, c'est l'effet lourde. Oui, effectivement, si on y croit, ça marche. Ouais.
La responsabilité existentielle, ça c'est au cœur hein, de cette psychothérapie que vous proposez.
Oui, parce que là, j'avais été effectivement très influencé par les travaux de Sartre qui disait « attention ».
Contre le déterminisme.
C'est, oui, c'est de la mauvaise foi quand on commence à dire que c'est à cause de la société, de papa, maman ou de ma biologie. Non, on est responsable de justement, si on a une tendance à prendre du poids, de faire un régime, si on a eu des parents toxiques, de se recréer son monde, et si on est dans un contexte socioculturel délétère, peut-être de voyager et de voir autre chose. Nous sommes responsables de notre existence.
Oui. Sophie Robert.
Ah ben je suis complètement d'accord.
Ouais. Vincent nous dit ceci, ça faisait un moment que je n'ai pas entendu tant de haine anti-psychanalytique, quoi qu'il s'en défende, mais... oser dire que les psychanalystes ne s'intéressent pas à l'histoire du sujet, quelle honte.
On n'a pas dit ça, on a dit qu'ils s'intéressent à l'histoire du sujet pour qu'ils en arrivent à la conclusion qu'a décidé Freud ou Lacan.
Joy nous dit, socialement, Freud n'a-t-il pas permis le début de la révolution sexuelle et Winnicott et Dolto le respect de la parole de l'enfant?
Alors c'est vrai que grâce à Freud, effectivement, il y a eu une révolution sexuelle, on a pu parler sexualité, mais enfin on en a beaucoup parlé, mais lui il était plutôt sur la sublimation, donc très apollinien, alors que les post-freudiens étaient plutôt dionysiaques. Non, il était vraiment un peu serré, je ne sais quoi, un peu censuré au niveau de la sexualité. Je ne pense pas que c'était...
Sophie Robert n'est pas d'accord.
Un bon refoulement, c'est nécessaire, on dit les psychanalystes devant ma caméra. Non, non, Freud s'intéressait à la sexualité parce qu'à son époque, tout ce monde s'intéressait à la sexualité. Et en lui, je vous l'ai dit, il a imposé sa vision hystérique, en fait, de la sexualité basée sur le refoulement des femmes, du féminin Lacan, il n'y a pas d'harmonie sexuelle possible entre un homme et une femme. Enfin, voilà, tout est négatif, tout est tragique. Il parle de la sexualité sans arrêt, mais pour imposer une idée complètement perverse, pathologique. Non, non.
Quant à Dolto, sur le respect de l'enfant, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas oublier que Dolto a aussi participé à la sélection des 100 000 enfants avec son comparse Alexis Carrel, eugéniste pendant la guerre. Et ça, c'est interdit de le dire puisque Mme Rodinesco m'a censuré.
Et là aussi, les psychanalystes... Alors Dolto, c'est l'après-guerre, hein, c'est parti des années 50-60. Je suis désolée, c'est tout un corpus culturel de l'époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tas de gens dans la lignée des éthologues qui se sont dit comment on a fait pour en arriver là, comment élever des enfants pour qu'on arrive à éviter les camps de concentration, les victimes et les bourreaux. Comment est-ce qu'on... Et donc, c'est des tas de gens qui, dans la lignée des éthologues, se sont interrogés sur le bébé, et le bébé animal et le bébé humain. Dolto, elle a surfé là-dessus, elle n'a pas du tout créé.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous disent, mais pourquoi pas d'opposants justement à votre débat? Alors d'abord, je les renvoie à l'émission avec Elisabeth Roudinesco la semaine dernière. On laisse la parole à tout le monde. Mais si vous voulez débattre ensemble, il n'y a pas de problème. Le problème, la difficulté, c'est de vous réunir autour du micro.
Complètement. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Écrivez-moi, envoyez-moi les mails, suscitez des colloques, des débats entre nous. Et on verra effectivement si on peut dépasser toutes ces luttes pour dire gardons ce qui est bon et créons des choses nouvelles.
Et on est tout à fait d'accord pour organiser un débat entre psychanalystes et psychothérapeutes qui propose d'autres alternatives.
Merci pour votre liberté d'expression.
On peut faire ça sans aucun problème dans la tête au carré. Merci beaucoup d'être venu. Ce livre, Didier Pleu, La révolution du divan. Et puis on peut voir vos films, Sophie Robert, sur le site internet.
Oui, je peux dire un petit mot à propos du phallus et le patou. Je lance une contribution financière. Vous trouvez ça sur mon site internet www.dragonbleutv.com. C'est pour faire un film de long métrage. J'ai besoin d'un complément de financement.
Pour ceux qui souhaitent vous soutenir.
Et je propose aux gens de toucher les royalties sur le film.
C'est terminé.